France Culture.
Tous les jours sur France Culture.
Sua memória faz desporto.
Votre tête reste chercheuse.
Il est 11h30 sur France Culture, la suite de Pourquoi tant d'histoires après les histoires de fiction. Histoire des idées avec vous, Jacques Munier. Les chemins de la connaissance, bonjour.
Bonjour Emmanuel Laurentin. Bonjour à tous. L'arc-en-ciel de l'hospitalité, aujourd'hui deuxième volet avec Véronique Léonard-Roch, agrégée de lettres modernes et professeure à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. En Grèce ancienne, l'hospitalité était une loi sacrée et une véritable institution sociale. Tout comme à Rome, elle pouvait prendre la forme d'un contrat, la convention d'hospitalité, conclue devant Zeus ou Jupiter et matérialisée par l'échange des deux parties de la tessère d'hospitalité. Symbole concret de ce pacte qui pouvait se transmettre comme la qualité d'hôte de génération en génération. C'est donc cette profonde et antique affinité de l'hospitalité et du sacré dont nous allons tenter de remonter les traces avec vous, Véronique Léonard-Roch, jusqu'à ses conceptions et ses pratiques du monde grec.
Oui, tout à fait.
Alors la première évidemment de ces pratiques, c'est ce qu'on appelle la théoxénie. Mais l'affinité profonde de l'hospitalité et du sacré, c'est une attitude consubstantielle au monde grec.
Effectivement, on peut lire dans l'Odyssée comme une devise qui revient continuellement la formule suivante, étrangers et mendiants, tous viennent de Zeus. Et c'est une manière d'établir un lien entre l'étranger et le divin. Hein. L'étranger est une expression de l'inconnu, une expression du mystère, de la menace, autant de caractéristiques qui peuvent être celles du divin. Et il s'agit, lors de la situation d'hospitalité, de réduire la distance entre deux sphères complètement différentes, hein, la réduire, non pas l'annihiler, de manière à conjurer l'hostilité potentielle dont l'autre, l'étranger, peut être porteur. Et comme le dit très bien Jacques Scherrer dans son bel essai « Zeus hospitalier ».
René Scherrer ?
Oui, René Scherrer, excusez-moi, dans son essai « Zeus hospitalier », c'est un dieu qu'avec des cadeaux on achète, même si c'est à l'autre qu'on les donne.
Alors, on voit bien que c'est une pratique qui, dans ces temps difficiles, était un véritable équivalent, finalement, de tout ce qu'on trouve aujourd'hui comme auberge sur le chemin du voyageur.
Oui, l'hospitalité était un devoir sacré. Un devoir sacré, Platon le dit par exemple, et ne pas donner l'hospitalité, c'était risquer d'encourir le courroux de Zeus hospitalier, le protecteur de l'hospitalité.
Voilà, alors il y a des figures de dieux qui sont très liées à cette pratique de l'hospitalité. Évidemment, le premier d'entre eux, c'est Zeus. Vous évoquiez René Scherrer, c'est lui, dans ce livre Zeus hospitalier, qui en montre toutes les potentialités.
Zeus, c'est effectivement le compagnon des suppliants. Hein. Il est à la fois le protecteur suprême, c'est-à-dire le dieu. Hein.
Le suppliant, excusez-moi, Véronique Léonard-Roch, oui. C'est d'ailleurs une figure aussi archétypique de ce monde grec.
Absolument. Le suppliant, c'est cet étranger qui, par un rituel très précis, en fléchissant le genou, en tendant des rameaux d'olivier, demande l'asile. Donc Zeus est le compagnon des suppliants, il devient lui-même l'hôte pitoyable, hein. Il se fait suppliant puisqu'il protège l'hospitalité.
On le voit souvent mis en scène d'ailleurs dans cette attitude.
Absolument, et la tragédie d'Eschyle, les Danaïdes, raconte par exemple comment 50 filles vierges, les filles de Danaos, fuient un mariage auquel elles espèrent échapper et demandent l'hospitalité à un roi, le roi d'Argos. Et justement, elles se présentent dans cette posture de suppliante et le roi hésitant, elle lui rappelle combien le courroux de Zeus hospitalier pourrait être terrible et combien il faut pratiquer l'hospitalité.
Alors il y a également l'histoire très connue de Philémon et Baucis, où c'est Zeus en compagnie d'Hermès qui rendent visite à un couple de vieillards, mais ils sont évidemment en quelque sorte travestis, déguisés en suppliants.
Absolument, on a affaire là à ce qu'on appelle la théoxénie. Théoxénie de Théos, dieu, Xénos, étranger, hein, c'est-à-dire la réception par des humains d'une divinité méconnaissable, donc d'un dieu caché, masqué. Hein, et cette pratique est une mise à l'épreuve, finalement, de la piété, de la générosité, de l'équité des mortels. Et il s'agit ainsi de les départager en fonction de leur hospitalité ou de leur inhospitalité.
L'autre figure, l'autre dieu tutélaire de l'hospitalité en Grèce, c'est Dionysos, Dionysos l'étranger.
Oui, alors il faudrait peut-être d'abord faire remarquer que tout dieu est hospitalier. Tout dieu assure la protection de l'hôte dans un sanctuaire. Tout dieu garantit le droit d'asile. C'est ce qu'on voit par exemple dans la tragédie Œdipe à Colone de Sophocle, où Œdipe, ce vagabond, conspué de tous, chassé, trouve refuge dans l'enclos des Euménides, à Colone, faubourg d'Athènes, et le mythe montre combien Œdipe devient alors source de gratification, lui, l'errant, le rejeté, combien il peut devenir une source de bienfaits pour la ville qu'il accueille. Et pour en revenir à Dionysos, effectivement, Dionysos est un cas un petit peu particulier dans le panthéon de ces dieux hospitaliers, puisque l'extranéité, l'étrangeté, est véritablement une caractéristique structurale de sa divinité. Il risque toujours de se voir dénier l'appartenance à la race des dieux. Il est, comme l'a dit Marcel Détienne, l'étrange étranger, un dieu extrêmement cosmopolite, un dieu mouvant. Et donc, nombre d'œuvres antiques racontent justement les réceptions qui lui sont réservées et qui sont parfois des réceptions très inhospitalières, comme dans les Bacchantes d'Euripide, où l'on voit Dionysos revenir à Thèbes, sa ville natale, après avoir institué son culte en Asie, et être méconnu par son cousin. Il est vrai qu'il était Dionysos était travesti. Et bien évidemment, cette situation d'inhospitalité est rudement châtiée, sévèrement châtiée. Pinté, le cousin, est déchiqueté.
Alors justement, c'est l'autre face, j'allais dire, d'une même réalité. Ce que vous citiez Marcel Détienne, ce qu'il met en valeur aussi, c'est que Dionysos, d'une certaine façon, appelle, en tant qu'étranger, appelle la pratique de l'hospitalité et de la proxénie.
Oui, et justement, il est significatif que ce soit ce dieu en particulier qui se donne pour compagnon un nommé proxène, sous-bassement mythologique de cette fonction officielle qu'exerçait le proxène dans la Grèce archaïque. C'était l'introducteur des étrangers dans la cité, c'était l'équivalent de notre consul moderne, en quelque sorte.
Alors, on le voit, Véronique Léonard Roch, cette pratique de l'hospitalité est véritablement le creuset d'une attitude éthique. Elle forme en somme la substance d'une attitude éthique d'ouverture à l'autre et d'accueil de l'autre.
Oui, absolument. Et peut-être les théoxénies rendent-elles très bien compte cette attitude, puisque justement, il s'agit de départager les mortels, leur nature profonde, en fonction de la situation d'hospitalité. Bon, on a parlé de Philémon et Baucis, on pourrait peut-être y revenir rapidement, puisqu'effectivement, Philémon et Baucis sont peut-être le modèle de cette hospitalité généreuse, de cette théoxénie réussie. Les dieux Jupiter et Mercure sont déguisés, ils cherchent l'hospitalité, ils demandent l'hospitalité, ils frappent à maintes maisons, trouvent mille fois porte close chez les riches, et seul un couple très modeste, un couple de personnes fort âgées, leur offre l'hospitalité de leur maison, une hospitalité extrêmement frugale, extrêmement frustre. Ils vont même jusqu'à vouloir sacrifier l'unique animal de leur foyer. Et justement, le grand âge, l'extrême extrême misère presque des hôtes, c'est-à-dire de ceux qui accueillent l'étranger, sont des caractéristiques tout à fait constitutives de ces théoxénies positives. Et à l'inverse, on pourrait citer un exemple repoussoir qui est celui de Lycaon, le tyran d'Arcadie, qui n'a pas reconnu, bien sûr, Jupiter déguisé, lui a offert à sa table de la chair humaine et qui, en conséquence, se voit châtié et métamorphosé en loup. C'est ce que raconte Ovide, toujours dans les Métamorphoses. Donc là, la théoxénie est extrêmement intéressante parce qu'elle dit quelque chose de la vérité de celui qui accueille, de celui qui est confronté à la situation d'hospitalité. Elle le révèle, elle le définit au sens noble du terme. Est-il un homme, comme Philémon et Baucis, ou d'autres encore, ou est-il au contraire un loup, comme Lycaon?
Ou est-il un dieu, puisque le dieu arrive masqué?
Absolument.
C'était d'ailleurs l'autre nom de Dionysos, le dieu masqué.
Oui, oui.
Alors, je vous propose, Véronique Léonard-Roch, de retrouver une autre grande civilisation du monde méditerranéen dans laquelle la pratique de l'hospitalité est également une loi sacrée. C'est la civilisation arabo-musulmane. Et effectivement, l'hospitalité est une loi qui s'impose à tous. Elle est inscrite dans le Coran, comme on va l'entendre. Et c'est donc une obligation qui s'impose à tous les croyants.
Donne aux proches son dû, ainsi qu'à l'indigent, au fils du chemin. Ce sera un bien pour ceux qui veulent la face de Dieu. Ce sont eux les triomphants. Ce que vous donnez en usure pour grossir sur les biens d'autrui ne grossira pas auprès de Dieu. En revanche, ce que vous acquittez en vue de la purification par désir de la face de Dieu, ce sont eux qui recevront le double.
Voilà, Véronique Léonard-Roch, donc la sourate 30 du Coran, dans l'essai de traduction de Jacques Berck, et cette belle expression de « fils du chemin », elle est de lui. Alors, on revient un petit peu à la théoxénie, parce que c'est véritablement une épreuve révélatrice. L'hospitalité, on l'a déjà vu, peut être une épreuve révélatrice. La théoxénie, là, on est dans le cas limite.
Oui, et comme la théoxénie est une épreuve révélatrice, il est tout à fait compréhensible que souvent ce soit des mythes qui mettent en scène cette situation, puisque le mythe, c'est une catégorie de récits à valeur explicative et à valeur révélatrice également, qui a toujours trait avec le sacré, le divin. Et il est intéressant de voir que dans nombre de théoxénies réussies, donc où la situation d'hospitalité a été généreuse, la théoxénie est l'occasion donc de dons culturels et l'occasion de gains. Et on peut ainsi donner l'exemple de Dionysos qui fait don du vin en récompense d'une théoxénie généreuse, Cérès qui institue les mystères d'Eleusis là également pour récompenser une hospitalité généreuse. On peut aussi noter que des naissances extraordinaires voit le jour dans le cadre de cette interaction. On peut penser à celle d'Orion, du géant Orion, raconté là aussi par Ovide, qui est accordé à son père alors que son père était veuf. Ou bien dans la Genèse, on peut sortir un tout petit peu des mythes grecs, et rappeler que la naissance d'Isaac est due également à la récompense d'une théoxénie, puisque cette naissance qui court-circuite les voies traditionnelles de la conception intervient pour remercier l'hospitalité généreuse que Abraham a offerte aux envoyés de Yahvé, aux chaînes de Mambré.
Véronique Léonard-Roch, vous évoquiez donc la table, qui est quand même un moment important de l'hospitalité grecque. Et en démarrant cette émission, nous évoquions aussi le caractère tout à fait social de certaines pratiques liées à l'hospitalité, notamment cette convention d'hospitalité. Alors, il y a une très belle habitude de la vie grecque qui s'appelle la part d'honneur.
Oui, il s'agit de réserver le meilleur pour l'étranger. Et effectivement, il y a un rituel extrêmement codifié qui consiste à accueillir l'autre avant même de lui demander son nom. Et en contrepartie, eh bien, des crimes d'hospitalité peuvent être liés aussi à cette table. On peut penser, par exemple, aux crimes monstrueux commis par Atrée, qui fonde toute une hérédité criminelle, celle de la famille des Atrides. Atrée qui offre à son frère Thieste, pourtant revenu en situation de suppliant, qui lui offre ses enfants, ceux de Thieste, à manger. Et c'est ce crime initial, donc, qui entraîne dans les deux générations suivantes les parricides, c'est-à-dire crimes sur parents que l'on sait, le crime d'Agamemnon, meurtre d'Agamemnon, meurtre de Clytemnestre ensuite, etc.
Oui, c'est, on peut dire à l'origine de la tragédie des Atrides, il y a un manquement aux lois de l'hospitalité.
Oui, ce manquement est toujours châtié de manière très très rigoureuse, très sévère. De même qu'un autre manquement particulièrement là aussi puni, qui est celui de l'usurpation par l'hôte, c'est-à-dire l'invité, de la place du maître. On en a bien sûr un exemple emblématique à la fin de l'Odyssée, lorsque Ulysse vient châtier les prétendants qui avaient investi sa demeure contre le gré de Télémaque et de Pénélope.
Et il se présente d'ailleurs en suppliant, en mendiant, et son porcher, Eumée, ne le reconnaît pas.
Les chiens, ces glapisseurs, tout à coup surprirent Ulysse. Ils lui coururent sus en aboyant. Ulysse alors eut la sagesse de s'asseoir. Son bâton lui glissa des mains. Et devant son étable, il eut souffert ignoble affront. Mais le porcher qui accourut bientôt d'un pied rapide bondit à travers l'entrée. Le cuir lui glissa des mains. À grands cris, il chassa les chiens de tous côtés sous une grêle de cailloux et s'adressant au maître... Les chiens ont bien failli, vieillard, te déchirer d'un coup, et j'en aurais été par toi couvert de blâme. Les dieux ne m'ont-ils pas donné assez d'autres angoisses ? Eh oui, pleurant et regrettant un maître égal aux dieux, je reste là, et j'élève ses porcs pour les donner à d'autres, alors que lui, souffrant peut-être de la faim, erre par villes et pays chez des gens d'autres langues. S'il vit, s'il voit encore la lumière du soleil... Mais suis-moi, vieux, entrons dans ma cabane, qu'à ton tour de ce pain et ce vin ayant rassasié ton cœur, tu me racontes d'où tu es et l'histoire de tes soucis. Sur ces mots, le porcher le conduisit à sa cabane, le fit entrer, asseoir, ayant entassé des branchages et mis dessus la grande et épaisse toison, c'était son lit, d'une chèvre sauvage. Ulysse fut heureux d'être reçu ainsi et lui dit ces paroles. Mon hôte, puisse Zeus et les autres dieux exaucer tous tes plus chers désirs, puisque tu m'accueilles si bien. Alors, porcher Eumée, tu lui dis en réponse, il serait impie étranger de mépriser un hôte, fût-il moindre que toi. Car les mendiants, les étrangers, viennent de Zeus, et le moindre don leur fait joie, qui est nôtre. Puis, en hâte, il serra sa ceinture sur son manteau et gagna les enclos du peuple des Gorées. Il en prit deux, les apporta, les immola tous deux, les grilla, les hacha, les piqua sur des broches. Puis quand tout fut rôti, il offrit la viande à Ulysse, fumante, à bout de broche, et versa la farine blanche. Dans la jatte, il mêla le vin doux comme miel, s'assit face à son hôte et lui fit cette invitation. « Mange donc, étranger. C'est un repas de serviteurs, des porcelets. Les cochons gras sont pour les prétendants. » Qui n'ont ni crainte du courroux divin, ni compassion.
Véronique Léonard Roch, voilà une scène d'hospitalité en situation.
Oui, et effectivement, Ulysse était mendiant, se présentait sous la forme d'un mendiant extrêmement misérable. Et lorsqu'il gagne le manoir, enfin sa demeure, investi par les prétendants, il n'est bien sûr pas reconnu et il est même très très mal traité par eux.
Sauf par son porcher Eumée qui, lui, a, si j'ose dire, passé avec succès l'épreuve d'humanité qu'est cette pratique d'hospitalité.
Absolument, et encore une fois, donc, on remarque que ce sont les plus modestes qui pratiquent avec le plus de générosité l'hospitalité.
Alors, il y a également, Véronique Léonard-Roch, des exemples nombreux dans la mythologie d'hospitalité abusive. On a évoqué une certaine forme d'excès dans l'hospitalité, mais d'excès dans l'accueil, parce que l'hospitalité est toujours une loi un peu asymétrique. Mais là, il s'agit d'excès dans le déni d'hospitalité ou dans l'abus d'hospitalité.
Alors, comme autre exemple d'abus d'hospitalité, on pourrait parler d'une pratique qui est considérée comme archaïque, qui ne répond pas finalement aux pratiques sanctionnées par le Zeus hospitalier, en mentionnant l'usage sexuel de l'hôte, que l'on trouve également inscrit dans les marges dans l'Odyssée. L'Odyssée qui est pourtant un poème de l'hospitalité mesurée, équilibrée, mais qui inscrit dans ses marges, avec en particulier les figures de Circé et de Calypso, cette pratique hospitalière érotique, désormais considérée presque comme incestueuse et frappée de tabou. Circé, Calypso essaient de retenir par des étreintes amoureuses Ulysse, et elles en font leur prisonnier. Leurs lois sont celles de la jouissance, sont celles de l'excès, et qui disent, et ces exemples sont intéressants parce qu'ils disent quelque chose finalement de l'essence même de l'hospitalité. L'hospitalité qui est tendue entre deux tentations, entre deux tendances. Une hospitalité de type absolu, total, avec Circé Calypso par exemple, ou encore, autre exemple, Polyphème le cyclope, qui se livre là au cannibalisme, qui voudrait ingérer Ulysse. Donc c'est une hospitalité de type inconditionnel, comme pourrait le dire Jacques Derrida, et qui s'oppose à cette autre tendance de l'hospitalité qui est d'être prescriptive, régulée, institutionnalisée finalement.
Véronique Léonard-Roch, vous venez d'évoquer Jacques Derrida, qui est en quelque sorte comme une présence tutélaire tout au long de cette série sur l'hospitalité. Je vous propose de l'écouter à propos d'une autre réalité qui est à la fois grecque et méditerranéenne, dans une version plus contemporaine, bien entendu, celle des villes-refuges.
Nous avons appris au Parlement international cette idée de ville-franche et de ville-refuge. Alors, ce sont deux très belles traditions. La ville-refuge remonte à une tradition biblique. D'ailleurs, Lévinas y consacre un très beau texte que j'essaie de commenter. Et puis, des villes franches du Moyen-Âge, etc. Donc, il s'agit de, se fier aux ressources que peuvent encore détenir les villes pour, quelquefois, faire ce que les États ne peuvent pas ou ne veulent pas faire. Alors, là aussi, pas d'illusion. Les villes, dans les démocraties riches, les villes sont encore, naturellement, ou de petits États, ou des parties de l'État soumises, ou à l'État ou à l'Europe. Mais il y a du jeu entre la souveraineté de la ville, ou la quasi-souveraineté de la ville, et la souveraineté de l'État, et il nous a semblé que des villes pouvaient faire ce que les États n'étaient pas prêts à faire. Un des exemples, alors on pourrait parler, si vous le souhaitez, de la tradition biblique des villes-refuges, c'est un thème passionnant mais très compliqué, mais plus actuellement, de ce qui se passe avec le Parlement international, où un assez grand nombre de villes, en Europe et hors d'Europe, ont passé avec le Parlement international des conventions au terme desquelles elles s'engagent à recevoir des intellectuels, écrivains, journalistes, persécutés dans leur pays, obligés de quitter leur pays, donc les villes mettent à leur disposition pendant un certain temps les moyens de vivre, de travailler et aussi d'échanger avec la culture et la langue de la ville qui les reçoit.
Véronique Léonard-Roch, voici donc présenter ce projet, ce beau projet hospitalier des villes-refuges du Parlement des écrivains par Jacques Derrida.
Oui, alors peut-être pourrait-on revenir très rapidement à ce qu'est la ville-refuge dans la tradition biblique.
Cette question complexe dont parle Jacques Derrida.
Absolument. Donc il en est question dans un certain nombre de livres de l'Ancien Testament. Au moment où Moïse doit établir le partage de la terre promise entre les différentes tribus d'Israël. Et Yahvé a ordonné que 6 villes soient réservées pour être des villes dites de refuge, c'est-à-dire des asiles pour les meurtriers involontaires, qui ont commis donc un meurtre par inadvertance, par mégarde. Or, normalement, donc dans la tradition de l'Ancien Testament, tout meurtrier doit être poursuivi par la vindicte du vengeur du sang. Le vengeur du sang, c'est ce proche parent de la victime qui doit le venger, absolument, en appliquant la loi du talion. Or, ceci n'est tempéré que dans le cas d'un meurtre involontaire. Donc le meurtrier involontaire se réfugie dans cette ville de refuge. Il y reste d'ailleurs jusqu'à la mort du grand prêtre contemporain du crime. Et on voit que cette ville-refuge est un lieu extrêmement ambigu. C'est un lieu à la fois d'exil et d'asile. C'est un lieu de sanction et de protection. Et l'habitant de la ville-refuge est un meurtrier coupable.
Un bel exemple.
Un innocent coupable.
Un innocent coupable, oui. Et c'est un bel exemple de cette hospitalité impossible dont parle par ailleurs Jacques Derrida.
Oui, absolument. Et Emmanuel Lévinas, qui a commenté cette tradition des villes-refuges, fait d'ailleurs un lien entre ce lieu extrêmement ambigu d'asile-exil et la relation même de la fraternité. La fraternité humaine qui est source à la fois de haine, mais aussi de pitié.
On voit là encore comment l'hospitalité forme la substance éthique, finalement, de l'humanité civilisée.
Oui.
De l'humanité en civilisation.
Absolument.
Alors, ces villes-refuges du Parlement des écrivains, dont Jacques Derrida nous a donné quelques éléments, c'est une institution donc qui est destinée à se développer.
Oui, il existe une trentaine de villes-refuges aujourd'hui dans le monde, depuis 1997, la date d'institution de la charte ou du réseau des villes-refuges. Donc des villes-refuges surtout en Europe, mais également aussi maintenant en Amérique du Nord et du Sud, ou en Afrique. Une soixantaine d'écrivains ont été hébergés, dans ce qui n'est pas du tout un acte de charité. C'est conçu comme un acte de solidarité, puisque l'artiste accueilli participe à la vie culturelle de la cité. On peut donner un ou deux exemples. Amin Zaoui a été l'hôte de Caen. Taslima Nasrin a été celui de Berlin. Et finalement, c'est sans doute une manière de renouer, effectivement, comme l'a expliqué Jacques Derrida, avec cette tradition d'hospitalité de la ville, en Occident. On pourrait croire que cette hospitalité s'est miniaturisée dans nos villes actuelles, puisqu'elles sont commandées par la représentation, commandées par la monétarisation. Et on peut se souvenir qu'un certain nombre d'arrêtés ont été pris dans certaines communes pour interdire les SDF sur leur territoire. Mais là, justement, avec cette réactivation de la notion de ville-refuge dans le contexte actuel, on a une illustration concrète d'une hospitalité pratique, puisque effectivement l'artiste en résidence touche des prestations municipales, un logement est mis à sa disposition, et il s'agit de lutter contre toutes les atteintes qui peuvent être faites, menacer les écrivains dans leur être, dans leur travail, mis à l'index ou véritablement persécuté.
On le voit, c'est une belle illustration contemporaine, un bel écho moderne de ce qu'étaient ces villes-refuges de la tradition biblique.
Oui, et puis aussi les villes franches du Moyen-Âge. Et on peut se rappeler aussi que des écrivains, justement, ont bénéficié de la protection de villes plus hospitalières que les États. On peut citer Dante, on peut citer Rabelais, on peut citer Voltaire. Et comme le disait Jacques Derrida, effectivement, peut-être la ville est-elle une structure plus souple, plus ouverte que l'État, ou pourrait se réinventer un renouvellement donc du devoir d'hospitalité. Et ainsi, la ville pourrait peut-être renouer avec une image qu'elle a longtemps incarnée, celle de l'avenir de la civilisation.
Véronique Léonard-Roch, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeure à l'Université de Clermont-Ferrand et que vous avez donc contribué à cet important ouvrage collectif publié par les éditions Bayard, le livre de l'hospitalité. D'ailleurs, pour les auditeurs qui souhaiteraient retrouver votre contribution sur l'histoire grecque de l'hospitalité, cette contribution est située pile à la page 1000. C'est facile à retrouver. Les textes étaient lus par Anne Créis. C'était donc Le Fils du Chemin, deuxième volet de cette série consacrée à l'hospitalité, que nous retrouverons demain avec L'Esprit du Don et Anne Gottman, anthropologue au CNRS. Les Chemins de la Connaissance, une émission préparée par Fabien Pourcher, réalisée par Anne-Pascale Desvignes avec Ariane Herbé. Retrouvez-nous donc sur le site franceculture.com. Vous êtes sur France Culture, il est presque midi. Bonjour Marc Boinchet.
Eh bien voilà, bonjour Jacques Munier, il est exactement midi, jusqu'à 14h c'est tout arrivé.